Donc nous parlons aujourd'hui, frères et sœurs, particulièrement de cantiques et d'orgue, puisque nous célébrons la fête de la musique. Et comme je suis un musicien également, organiste, et j'admire beaucoup l'orchestre qui nous accompagne pour ce culte ce matin. Et nous allons parler d'orgue puisque c'est l'instrument de service traditionnel dans nos communautés, même si c'est un orgue électronique. Mais l'orgue à l'église, l'orgue dans le temple, en a-t-il toujours été ainsi? Eh bien non. Il s'est d'ailleurs trouvé des gens dans le sillage de Calvin pour dire « On ne parle pas d'orgue dans l'église, dans la Bible, donc l'orgue n'a pas sa place dans l'église. » Peut-être, mais combien d'instruments n'entend-on pas citer dans la Bible, dans les psaumes? Le psaume 150 que vous connaissez vous donne la panoplie d'instruments de musique que l'on faisait résonner dans le culte juif. Et une série de ces instruments peuvent d'ailleurs, selon les modèles d'orgue, se retrouver dans les différents tuyaux ou dans les différents jeux qui composent un orgue. Même dans notre orgue électronique, qui nous offre l'accompagnement du piano. Le piano qui, entre parenthèses, est un instrument à cordes, qui ne sont pas des cordes pincées, mais des cordes frappées. Mais curieusement, savez-vous que la musique instrumentale n'a pas toujours existé dans les églises? Et elle n'y a même été introduite qu'après un long combat acharné. Alors qu'on chantait dans le culte hébreu, et plus encore pour les fêtes, avec de nombreux instruments, pas seulement avec les douces harpes ou sitares, mais aussi avec les cors, les trompettes, les cymbales retentissantes. Pour leurs cérémonies religieuses, les Juifs n'avaient pas peur de sons percutants. Nous pensons que le chant et les instruments de musique ont toujours existé depuis le début de l'Église. Mais c'est faux. Seul le chant a existé dans l'Église, dans le culte. Et de plus, il était uniquement entre les mains des prêtres, comme dans l'Ancienne Alliance. Seuls les prêtres, les Lévites, avaient le droit de chanter et de jouer en faisant culte. Si la musique a joué un rôle considérable dans la liturgie, on le voit d'ailleurs dans le premier livre des Chroniques, dans les chapitres où il est question du service autour du temple, il y avait, dit-on, 288 maîtres musiciens, 1 Chronique 25, parmi 4000 chanteurs. Ceux-là étaient choisis parmi les Lévites, c'est-à-dire dans la tribu des prêtres. Il y avait d'ailleurs 24 classes de musiciens, comme pour les prêtres. Et ils étaient vêtus de la même manière qu'eux, d'une tunique particulière de lin. On voit donc, et peu de gens le savent, que la musique au temple de Jérusalem avait autant d'importance que le culte, que le sacrifice. Et les musiciens étaient aussi importants que les prêtres, les scribes et les théologiens. On peut s'interroger sur la raison. Pour la trouver, il faut d'abord se demander quel rôle exactement a la musique dans la Bible. Et on peut le savoir dans ce même livre des Chroniques, chapitre 15, verset 16, David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Il s'agissait donc d'exprimer des sentiments. On trouve la même chose dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 13. « Par la musique, le chant, dit Jacques, exprimez vos sentiments. » Cela montre quelque chose qui est la place essentielle qu'ont les sentiments dans la religion. Et s'il y a des pasteurs et des docteurs ou des théologiens, il faut aussi des musiciens qui fassent ressentir les choses. Le pasteur, il représente la part intellectuelle, si on veut, de la religion. Il est là pour aider à la réflexion, à la méditation des Écritures, pour signifier des choses essentielles par des actes religieux. Les musiciens, eux, rappellent que dans la relation à Dieu, il y a une part de ressenti. Tout n'est pas explicable, mais il y a aussi de l'irrationnel. Et s'il faut adhérer intellectuellement à la pratique de la foi, l'apôtre Paul dit d'ailleurs, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc, s'il faut adhérer intellectuellement à la pratique de la foi, il faut aussi la vivre profondément, avec son cœur, avec ses tripes, toute sa sensibilité. Et il faut en ressentir de la joie ou de la peine. Parce que oui, s'il y a des joies et des peines profanes, il y a aussi des joies et des peines religieuses. La joie religieuse, c'est celle d'être sauvé, d'être aimé par Dieu. C'est la joie de la bonne nouvelle et nous devrons la rechercher. Rends-nous la joie d'être sauvé, dit le psaume. Et la musique peut nous conduire à cette joie. Et la peine religieuse, c'est celle de vivre son péché, son imperfection comme un deuil. C'est de pleurer sur son péché, comme Marie-Madeleine offre ses larmes de repentance au Christ, ou comme le psaume 51 qui dit « Un cœur brisé et broyé, voici le sacrifice qui plaît à Dieu. » Comme ils sont navrants, ceux qui refusent de vivre leur religion avec leurs tripes et toute leur vie. Il faut accepter de chanter une complainte, de s'affliger, de pleurer en reconnaissant sa faute, comme incitait à le faire Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui peut nous faire pleurer plus profondément, plus joliment et plus purement qu'une belle musique ? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, je viens à toi. Ou encore ce cantique dans ma misère et mon péché. Seigneur, tu m'as aidé. Mais il faut aussi savoir danser de joie. Quand il y a la joyeuse flûte de la bonne nouvelle du Christ. Et qu'est-ce qui peut nous réjouir autant qu'une musique joyeuse? Donc, le chant a continué dans l'Église chrétienne, après le culte juif. On a continué à chanter, mais uniquement les prêtres. Tandis que les instruments de musique sont disparus dès le début. Dès le début, que dis-je? Pendant des siècles, on n'a plus chanté avec des instruments de musique. On a donné 2 explications à cela. On a considéré que la voix humaine, la voix nue, était seule assez pure pour élever vers le ciel une pieuse imploration ou une louange. L'Église et quelques églises partagent toujours ce point de vue. Aujourd'hui, notamment l'Église orthodoxe, ou par exemple la plupart des assemblées de frères tarbistes. Mais deuxième explication, il y a eu la volonté de vouloir prendre bien des distances par rapport au culte païen de l'époque. Parce que dans les cultes à mystère, dans les cérémonies de bacchanal, il y avait beaucoup d'instruments, mais qui servaient à introduire les orgies, la débauche, qui servaient à soutenir l'évolution de danseuses, et au son de la lyre, et au son du psaltérion, au son des chalumeaux, musettes, flûtes. Bref, cette musique instrumentale était un dissolvant des mœurs. Voilà pourquoi ce n'est finalement que vers le 8e et 9e siècle qu'un instrument a trouvé grâce dans l'Église, l'orgue, qui au début d'ailleurs n'avait qu'un rôle très limité. Il ne servait pas pour le chant de l'office, le chant de l'office où subsistait seule la voix humaine, mais uniquement pour soutenir l'apprentissage du chant, et puis aussi comme intermède lors des pauses, comme instrumental. Lorsque interviendra la réforme au XVIe siècle, et nous allons fêter l'année prochaine l'anniversaire de la réforme, les principaux réformateurs prendront des directions différentes selon les lieux. Martin Luther, qui est unanimement reconnu comme le grand réformateur, était malgré tout un réformateur prudent. Il n'a pas toujours eu la radicalité des autres. Il a bien sûr expurgé de la messe tout ce qu'il trouvait contraire à l'Évangile, mais il a laissé une large place au chant. Et même plus large encore, car pour lui, c'est toute l'assemblée qui doit chanter. Et dès lors, le chant ne sera plus l'apanage des chantres ou des chœurs que formaient souvent les moines, les chanoines, les prêtres, mais toute l'assemblée sera invitée à chanter. Et non plus un chant en latin, mais un chant en allemand, la langue du peuple. D'abord, sévère contre les orgues, Luther les réintroduira plus tard, mais alors comme tout simplement un instrument de nef, donc un instrument du lieu où les fidèles sont assemblés, et non plus comme un instrument du cœur, là où se tenait donc le clergé, là où chantaient les spécialistes en quelque sorte. Et pour la fin du XVIe siècle, l'orgue et les chants vont être harmonieusement combinés, l'orgue intervenant pour introduire et accompagner les chants, mais jamais pour supplanter le chant de l'assemblée. Et on sait tout ce que cette piété luthérienne allemande particulièrement va engendrer comme musique religieuse au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons dans notre recueil de chants un grand nombre de ces chorales dues par exemple à Heinrich Schütz, Johann Krüger, Hans Hassler, Michael Pretorius, Johann Walter et bien sûr Jean-Sébastien Bach, qui lui retravaillera quantité de chorales écrites par ses prédécesseurs pour nous en livrer souvent plusieurs harmonisations géniales, ainsi que des cantates. À certaines périodes, il écrivait une cantate de 15-20 minutes chaque semaine pour être exécutée au culte du dimanche suivant par un chœur, un orchestre, des solistes. Et on connaît ainsi plus de 200 de ces cantates religieuses. Et puis les fameuses passions et l'oratorio. Écoutez simplement quelques mesures de l'introduction d'une passion et vous serez saisis par l'intensité dramatique. Écoutez quelques mesures de l'introduction de l'oratorio de Noël et vous serez transportés par la joie éclatante de timbales et des trompettes retentissantes. Écoutez seulement ces quelques notes jouées dans l'Alléluia du Messie de Handel. Pa, 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 quelques notes comme ça. Et vous aurez l'impression de vivre l'annonce du jugement dernier. La réforme luthérienne a donc réintroduit tous les instruments dans le culte et le chant pour tous les fidèles. Calvin, lui, était d'une forte réforme plus radicale. Pour lui, et je cite, « ces orgues qui se substituent au chant des fidèles, qui spolient l'expression de la louange, Calvin les supprime. Et l'on chantera a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental. Pour Calvin, on ne prie pas par procuration, en déléguant aux instruments ses sentiments. Et si l'on chante quand même, dans la réforme calviniste, pendant longtemps, on ne chantera pratiquement que des psaumes. Les rares exceptions étaient les trois cantiques connus dans l'évangile de Luc, le cantique de Marie, le Magnificat, le cantique de Zacharie, le Benedictus, et le cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Rien que des chants sur des textes bibliques. Mais on chantait alors les psaumes de manière ferme, musclée, gaillardement, comme dit Calvin. Mais cela signifie, par exemple, que pour Noël, on avait juste comme chant les cantiques de l'évangile de Luc, qui tournent autour de la naissance de Jésus. Et pour Pâques, finalement, rien de particulier, car les psaumes ne chantent pas la résurrection. Et pour le troisième réformateur, Zwingli, le troisième grand, disons, qui à plusieurs égards était le plus radical, pour Zwingli, on abandonnera toute musique dans les cultes, y compris des chants. Quand vous entendez son appréciation sur les orgues, vous aurez tout compris. Il les appelait les cornemuses du diable. On en est resté là avec Zwingli, car il est mort jeune et donc il n'a pas eu le temps de changer d'avis. Les cornemuses du diable. Avec les échanges transfrontaliers, volontaires parfois ou involontaires, souvent, lorsqu'il s'agit de quitter un territoire inhospitalier à la foi protestante, ou lorsqu'il s'agissait de fuir la persécution, les pratiques se sont mélangées. Et l'on peut dire que c'est surtout la vision luthérienne qui s'est imposée, tout en gardant bien sûr l'apport calviniste des psaumes qui ont été tous les 150 traduits, versifiés, mis en musique par plusieurs grands poètes et musiciens du temps. Je cite Théodore de Bèze, Clément Marot pour les poètes, Claude Goudimel, Claude Lejeune et Louis Bourgeois pour les musiciens. L'Église allemande a adopté les psaumes huguenots et l'Église réformée a adopté les chorales luthériens. Et par corollaire aussi, cette Église réformée qui jusque-là ne chantait que des psaumes a adopté l'idée que la musique d'Église pouvait se développer, même sans emprunter des paroles strictement bibliques. Ainsi, chaque siècle a eu son apport plus ou moins important, plus ou moins apprécié. Avec les grands débuts dont je viens de parler, il faudra attendre le 19e siècle qui apportera sa moisson de chants revivalistes, et particulièrement venant d'Angleterre. Et puis le 20e siècle, c'est pas loin de chez nous. Vous vous rendez compte, 20 siècles. Le XXe siècle se poursuivra dans la même veine, allant jusqu'à introduire des chants syncopés dans le dernier quart du XXe siècle que j'ai connu au début de ma vie chrétienne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la musique n'a pas toujours été composée comme une musique religieuse. Plusieurs psaumes déjà, plusieurs chorales, beaucoup d'airs piétistes et revivalistes, ainsi que certains chants d'aujourd'hui, sont simplement des reprises de musique existante, créées dans un but non religieux, et sur lesquelles ont été plaquées des paroles religieuses. C'est ainsi que nous chantons « À toi la gloire », qui est peut-être le cantique le plus merveilleux, le plus formidable pour exprimer la foi en la résurrection, la foi en l'œuvre du Christ. Mais il faut savoir que la musique vient d'un opéra oratorio de Handel sur le thème de l'histoire des Maccabées, donc d'une histoire qui est parabiblique, si l'on veut, puisqu'elle vient d'un livre apocryphe, de ces livres qui se trouvent dans les Bibles catholiques, mais qui n'ont pas été repris dans toutes les Bibles protestantes, ni d'ailleurs dans la Bible juive. Et voilà, de sorte que beaucoup d'airs ne sont devenus des chants d'église que par les paroles qu'on leur a associées. Et on peut en dire autant des pièces musicales jouées pendant le culte. Ce ne sont pas toujours des pièces à vocation religieuse, mais elles peuvent s'inspirer pour participer à l'atmosphère du culte. On a plaqué ainsi des paroles chrétiennes sur l'hymne national anglais, « Au toit dont les bienfaits », ou sur l'hymne national allemand, dans « Les ailes de la foi », ou sur l'hymne européen, dans « J'aime l'Éternel », la 9e symphonie de Beethoven, ou même les paroles catholiques de l'Ave Maria, dans « Les ailes de la foi », qu'on a traduit par « Ô Fils de Marie ». Et c'est ce qui donne aujourd'hui un héritage immense dont on ne connaît pas tout, dont on ne peut pas tout chanter, parce qu'aucun cantique n'a pu rassembler tous. Et la valeur musicale de ces chants peut être assez inégale, variant d'ailleurs selon les goûts de chacun. Certains sont déconcertés par les psaumes du XVIe siècle, d'autres sont absolument réfractaires à la modernité et aux syncopes, tandis que d'autres encore trouvent les airs revivalistes trop sentimentaux. Il est arrivé aussi que des recueils de cantiques en vogue, un certain temps, soient rejetés quelques années plus tard. Alors une solution qui apparaît de plus en plus dans beaucoup de nos églises, c'est l'utilisation du rétroprojecteur ou de l'ordinateur qui permettent l'adoption d'un répertoire de cantiques beaucoup plus vaste, rassemblant un plus grand florilège du patrimoine choral. Mais tout le monde n'aime pas cela non plus. Et certains y sont même allergiques. Enfin, après ce large tour d'horizon, qui, il est vrai, tient plus du cours ou de l'histoire que de la prédication, je l'avoue. Je pense aujourd'hui, mais on pouvait se le permettre, ce large tour d'horizon sur la musique et les cantiques dans le culte, sans doute faut-il quand même conclure en nous reportant sur quelques versets du Nouveau Testament. On y parle finalement très peu de chants et encore moins des instruments de musique. Mais tout de même, à côté des cantiques autour de la nativité repris par Luc, Matthieu nous a précisé, par exemple, qu'après avoir partagé la dernière scène, Jésus et ses disciples ont chanté les psaumes 113 à 118, les psaumes du Hallel égyptien. Hallel veut dire Alléluia, égyptien, le rapport à la libération d'Égypte, de psaume 113 à 18. Ça, ce n'est pas écrit dans l'évangile de Matthieu, mais nous savons que c'est ces psaumes-là que Jésus a chanté lorsque s'est achevé le repas pascal, avant donc de se rendre au mont des Oliviers. Ces psaumes, récités autant que chantés, ont manifestement fait partie de la vie spirituelle de Jésus. Et ils ont continué à être chantés dans les toutes premières communautés chrétiennes. Qu'on en juge par ces trois versets, dont deux que je relis et que nous avons lus tout à l'heure, dans Colossiens par exemple, « Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez à Dieu de tout votre cœur dans le sentiment de sa grâce. » Et dans les Éphésiens, nous avons aussi entendu « Édifiez-vous par le chant des psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels, louez et célébrez de tout votre cœur le nom du Seigneur. » J'y ajoute encore ce verset de l'Épître aux Corinthiens. « Que ferai-je ? Je prierai sous l'inspiration de l'Esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Je chanterai sous l'inspiration de l'Esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Et dans la même veine, on rappellera ce que Luther disait, chanter, c'est prier deux fois. Prier par la musique, prier par les paroles. On peut dire d'ailleurs que les airs de cantique et leurs paroles ont souvent façonné la foi du peuple protestant, parfois plus que les prédications. Et on ne jauge pas toujours exactement combien nous y sommes toujours attachés et le rôle profond que ces cantiques jouent dans notre foi et bien sûr dans notre culte. À l'instar des exhortations de l'apôtre Paul, ne nous privons pas de chanter de tout cœur. À l'instar des exhortations que l'apôtre Paul nous dit, non seulement chanter au culte, dans les réunions, mais aussi à la maison. Rien de tel pour exprimer la louange, pour nous placer dans un esprit de méditation et de prière. De même, dans des situations pénibles ou lorsqu'on est un peu déprimé, le chant des cantiques nous fortifie. Comme Paul et Silas se fortifiaient en chantant pendant leur emprisonnement à Philippe. Les cantiques sont un trésor que nous portons avec nous jusqu'à la fin de la vie. Là aussi, combien d'agonisants ont trouvé encore leur réconfort dans ces vieux cantiques qui remontent à la mémoire. Cantiques, musique, musique d'orgue ou d'autres instruments d'ailleurs concourent au bon équilibre de la spiritualité chrétienne, concourent à sa vitalité, à son épanouissement, comme nous y exhorte le psaume 98, que nous puissions souvent entonner un cantique nouveau ou ancien à la gloire de Dieu. Amen.